Alors, voici la traduction d'une conférence sur la guérison divine donnée par Curry Blake, responsable du ministère de John J. Lake aux États-Unis. Session 19 sur 19. Alors, nous y voilà encore une fois. Je vais continuer, finaliser l'enseignement aujourd'hui, mais en plus, j'aimerais vous introduire quelques personnes qui vont donner un mot de témoignage. Et l'une de ces personnes aussi va partager quelque peu sur le sujet de la guérison versus l'expiation. Et qui est vraiment un partage vraiment très profond, d'une grande qualité. Alors, nous avons déjà parlé de l'onction et de toutes sortes d'autres sujets. Mais le sujet de la guérison qui est contenu dans l'expiation que Jésus a accomplie pour nous, la rédemption qu'il a accomplie au calvaire, est de loin le sujet le plus important. Et je suis absolument convaincu que cet enseignement est l'enseignement le plus important que vous allez entendre concernant la guérison. Et que si vous comprenez bien ce qui vous est amené, cela va changer votre manière de faire lorsque vous priez pour les gens et votre vie. Alors, s'il est vital que vous saisissiez bien ce qui va être partagé dans cette session. Alors, la première personne que j'aimerais vous présenter, son nom est Sherry Sorby. Alors ici, maintenant, je lui laisse la parole. Alors la traduction qui va suivre, même si j'ai une voix d'homme, alors ce sera le témoignage de cette dame-là. Voilà. Alors c'est un privilège pour moi aussi d'être parmi vous. Et je me réjouis d'être avec des croyants comme vous l'êtes. Je suis une simple, une personne très ordinaire, chrétienne. Mais à travers les enseignements, j'ai compris qu'il y avait un Dieu extraordinaire qui habitait à l'intérieur de moi. La première fois que j'ai entendu ces enseignements, alors j'ai demandé la permission de faire des copies, des enregistrements sur cassette, et je voulais les partager avec tous mes amis chrétiens. Et par la suite, nous avons démarré un petit groupe que nous appelons une équipe de vie. Voilà, Life Team en anglais. Nous avons commencé cette équipe dans ma maison, chez moi. Alors, nous sommes tous de simples croyants, chrétiens ordinaires. Plusieurs d'entre nous avons été chrétiens depuis plusieurs années, beaucoup d'années. Et nous avons commencé à appliquer la vérité que nous avons apprise, la vérité de la parole de Dieu que nous avons apprise dans ces enseignements, et à prier pour les malades. Alors au début, nous n'étions pas habitués de prier de cette manière-là et d'aller vers les gens de cette manière-là. Alors nous avions une liste de prières où on mettait où on inscrivait le nom des gens. Et nous prions, nous avons commencé à prier avec ces personnes-là, mais au téléphone, à travers le téléphone, ensemble. Jusqu'à ce que nous devenions habitués à cette forme de prière-là, qui est plus un commandement qu'une supplication, là. Et en très peu de temps, nous avons commencé à recevoir des commentaires de gens pour qui nous avions prié et qui ont été guéris. Alors cela nous a beaucoup encouragés et nous avons continué à agir et à croire à ce que dit la parole de Dieu. Alors, de plus en plus, nous devenions des personnes audacieuses et hardies. Alors, nous avons commencé à prier pour les gens dans les centres commerciaux, dans la rue. Et nous avons même prié pour des gens de la rue, des itinérants que nous ne connaissions pas du tout. Et comme l'a dit Curry, si vous n'avez pas de passeport, vous devriez vous procurer un passeport. Parce que nous savons que Dieu appelle ses enfants, les chrétiens, à aller par tout le monde et dans toutes les nations pour faire des disciples. Alors, je n'étais jamais allé en mission auparavant, mais en 2005, moi-même et une amie qui était dans notre équipe de vie à la maison, alors nous avons été invités à aller aux Indes et nous sommes allés. Alors, nous avons partagé cet enseignement avec les pasteurs. Nous sommes allés dans des villages très éloignés, dans des tribus et des villages. Et nous avons vu de grands miracles. Des aveugles, des sourds qui ont été guéris. Et à mesure que Dieu guérissait les gens, ils devenaient des chrétiens, ils se convertissaient. Et même certains d'entre vous, ici dans cette salle, j'ai appris qu'il y en a, vous êtes allés aux Indes. Et il y a beaucoup d'idolâtrie dans ce pays. Mais Dieu a dit dans sa parole qu'il allait confirmer sa parole par les signes et les prodiges. Lorsque vous prêchez la vérité de Dieu et que vous agissez, il va confirmer sa parole. Lorsque vous allez dans l'Ancien Testament, il y a seulement à deux reprises où la foi, le mot foi est utilisé. Mais très souvent, Dieu a dit, soyez forts et pleins de courage, parce que je suis avec vous. Lorsque tu saisis ce message dans ton cœur et que tu commences à agir en conséquence, c'est exactement comme la parole de Dieu l'a dit. Tu verras les miracles s'accomplir. Tu verras des guérisons. Le deuxième voyage que nous avons fait aux Indes, alors la même amie est venue avec moi, son nom est Myriam, et elle a amené avec elle ses deux enfants. Et il y en avait un qui était à l'école secondaire et l'autre venait de terminer l'université. Des chrétiens très ordinaires comme nous. Et eux aussi ont prié et ont vu les mêmes résultats. Il y avait même une nouvelle maladie qui s'appelle le chikungunya, une maladie des poulets, là. En fait, c'est probablement un type de genre de grippe aviaire quelconque. Alors, les gens étaient accablés par la fièvre et de grandes douleurs au niveau des articulations. Et jusqu'au point que certains avaient les jambes, les bras paralysés. Et nous avons vu ces gens guéris. Dieu les a guéris. Alors maintenant, ce sont nous qui donnons l'enseignement à d'autres. Et il y a maintenant deux de nos amis qui s'en vont vers l'Ouganda, en Afrique. Alors si vous n'avez pas votre passeport, alors je vous encourage à vous en procurer un. Alors vous serez prêt pour que Dieu vous utilise. Il vous utilisera, c'est certain. Il va vous utiliser là où vous êtes et il va vous utiliser aussi ailleurs. La moisson est blanche et il y a peu d'ouvriers. Et Dieu veut vous faire confiance et vous envoyer dans sa moisson. Si deux femmes américaines comme nous peuvent aller aux Indes et de voir de grands miracles et le salut, vous aussi pouvez faire la même chose. Même nos enfants, nos petits-enfants qui ont actuellement 5, 6 ans à l'école élémentaire, alors même eux prient pour les malades et voient les malades guéris. C'est aussi simple que de dire mal d'estomac, au nom de Jésus, je te chasse. Et ils le font vers leurs amis et les amis sont guéris. Alors je vous remercie, j'ai été heureuse de partager avec vous. Alors ici, c'est Curry qui reprend la parole et qui dit, la raison que je vous donne ces témoignages-là, que je vous fais entendre ces témoignages, c'est que je veux vous démontrer que ce que j'enseigne fonctionne. Alors vous voyez, ce sont des gens tout à fait normaux, des chrétiens comme vous et moi. Alors nous sommes tous des gens tout à fait normaux qui sont au service, d'un Dieu qui est énormément grand et tout-puissant. Alors, j'accueille ces témoignages partout où je vais, dans le pays ici et partout où je vais. Et c'est la même chose outre-mer ou dans d'autres pays. Alors, si moi je peux le faire, si d'autres peuvent le faire, alors vous savez que vous aussi vous pouvez le faire. C'est facile. C'est nous qui avons rendu les choses compliquées et difficiles. Alors, j'aimerais maintenant demander à mon ami Pat de venir. Alors, Pat Buckley est notre directeur, un directeur régional pour le ministère dont je suis directeur, alors le ministère de John G. Lake. Alors, c'est lui qui va partager avec vous sur le sujet de la guérison et de l'expiation. Alors, écoutez bien, ce message est vital. Alors ici, c'est Pat qui prend la parole. Donc, je vous remercie beaucoup. Et nous sommes tous des gens ordinaires qui accomplissons la volonté de Dieu. Je suis un homme d'affaires. Alors, en 2001, j'ai entendu ces enseignements-là. Et je vais vous en dire davantage au fur et à mesure que je vous enseigne. Et comme Curry l'a dit lui-même, alors nous ne sommes pas des gens qui enseignons la théorie seulement. Nous vivons ce message. Alors, j'ai commencé à m'impliquer avec un ami là ici qui fait de l'évangélisation. Et je l'ai accompagné en Afrique, au Pakistan. Je suis allé 8 fois au Pakistan et j'ai prêché ce message partout. Et j'ai prêché même ce message à plusieurs pasteurs au Pakistan. Et une chose que j'aime au niveau du Pakistan, c'est qu'il y a des gens là-bas qui sont prêts à vous couper la tête. Ça va avec moi. Mais coûte que coûte, nous avons le mandat d'aller et prêcher l'Évangile. Mais les pasteurs là-bas, et même c'est la même chose pour plusieurs autres pays en voie de développement ou d'autres pays où le christianisme n'est pas toujours bien accueilli. Alors, même certains de ces pasteurs-là m'ont dit qu'ils étaient un peu confus suite à certains messages qu'ils avaient entendus de l'Église américaine. Et lorsque je suis allé et que nous avons donné ces enseignements, alors ils m'ont tous dit que la confusion était dissipée et que ce message, ces enseignements, ont réellement rétabli la foi fondée sur la Bible et à la lumière de Dieu. Alors, je ne pourrai jamais mettre une emphase assez grande sur cela. Et ce que nous vous enseignons, comme Curry l'a fait, c'est vraiment le message de base, c'est le fondement de l'Évangile. Alors, si il était nécessaire d'avoir seulement des gens très spéciaux ou de grands théologiens pour enseigner ce message, alors aussi bien dire que le message est le faux message. Mais si des gens simples comme vous et moi sont capables de prêcher l'Évangile, alors nous comprenons qu'il s'agit vraiment du message de base de l'Évangile et du vrai Évangile. Alors, ceux qui ont le manuel, il faut aller au chapitre 3, le chapitre qui nous parle de la guérison et de l'expiation. Concernant la guérison, lorsqu'il est le temps de guérir les malades ou encore d'être guéri vous-même, et même je pourrais même vous partager un bout de ma propre vie, un témoignage personnel, ça ne sera pas trop long. J'aimerais bien vous dire que vous devez absolument être fondé sur un terrain solide. Lorsque c'est vous qui êtes malade, vous avez vraiment besoin d'avoir un bon fondement au niveau de la foi. Alors auparavant, j'aimerais qu'on aille dans un texte de l'Écriture. C'est le chapitre d'Ésaïe. Au chapitre 53 et le verset 4. Alors, je vais utiliser une traduction de la Bible en français courant. Et j'aimerais souligner, avant de lire le verset, que ce texte a été écrit des centaines d'années avant que Jésus vienne sur la terre. Alors, voici ce que dit le texte. Alors, le verset 4 dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Alors, il y a différentes traductions de ce passage-là, différentes versions, et alors certaines versions vont, au lieu de parler spécifiquement de la souffrance et des douleurs, vont parler plutôt de nos afflictions et de notre tristesse. Alors, cela n'est pas une bonne traduction des mots qui sont utilisés ici dans ce verset-là. Alors, il est bel et bien question de nos souffrances dans le sens de maladie et non pas de notre tristesse, mais bien de nos douleurs. Et alors, il faut bien choisir les traductions de la Bible que nous utilisons. Heureusement, moi je viens d'un arrière-plan catholique, et heureusement, la Bible catholique a bien traduit ce verset-là. Donc, il m'arrive souvent d'aller prier pour des gens qui sont catholiques et de leur montrer dans la Bible que Jésus-Christ a bel et bien porté nos maladies sur lui et qu'il s'est chargé de nos douleurs, ce qui nous fait mal. Alors, habituellement, lorsque nous lisons ou que nous avons plusieurs traductions de la Bible et que nous devons faire face à ces quelques nuances-là, ou parfois des nuances importantes au niveau des traductions. Donc, notre réflexe, c'est que nous allons plutôt aller vers les commentaires bibliques pour savoir ce que les commentateurs vont dire. Mais est-ce que c'est réellement la bonne démarche? Ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il faut admettre que si pendant toutes ces années, nous n'avons pas pu bénéficier de la puissance de Dieu et de voir les miracles s'accomplir, c'est justement parce que très souvent, nous nous sommes fiés à ce que disait tel ou tel commentateur de la Bible. Alors encore là, je vous encourage d'être très prudent dans ce qu'on vous dit et même si cela semble venir de gens qui affichent une grande compétence ou qui se disent érudits. Alors, encore là, qui de ces commentaires, parce que même les commentateurs vont aussi se contredire sur ces points-là, alors qui de ces commentateurs vont nous donner la vérité? Alors, je vous suggère vraiment d'aller vous référer à la version infaillible des commentateurs. Alors, si vous voulez, je peux vous présenter un de ces commentateurs de la vérité biblique, et son nom est Matthieu. Alors, tournez avec moi dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8 et au verset 17. Alors, écoutons ce que ce commentateur de la vérité va nous dire. Est-ce que vous croyez que le livre de Matthieu est vraiment la version inspirée des commentaires bibliques? Oui, bien sûr. Alors voici ce qu'il dit. Alors Matthieu nous dit dans ce passage-là, évidemment en parlant de Jésus, parce qu'au verset 16, on nous dit le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Alors voici ce que Matthieu va nous apporter concernant le passage que nous venons de lire dans le livre d'Ésaïe et passage qui parfois suscite des controverses parmi les commentateurs de la Bible. Alors voici ce que Matthieu a à nous dire, lui. Alors au verset 17, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Et voilà, il cite, il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Alors, vous voyez, on n'a pas besoin d'aller très loin. Nous avons une explication ici, dans la Bible, d'un passage qui est un peu plus ambigu dans Ésaïe et qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a amené beaucoup de débats inutiles et de fausses théologies. Et nous avons cela disponible. C'est dans notre Bible. C'est là depuis le premier siècle et ce sera là jusqu'à la fin du monde. Alors c'est la Bible qui le dit. Alors si vous prenez la pire des traductions de la Bible, et elle dira quand même dans Matthieu 17, ici 8-17, que Jésus a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Est-ce que ce verset-là fait honneur au sacrifice que Jésus a accompli? Oui, bien sûr. Est-ce que ce verset-là fait honneur à Dieu le Père? Oui, bien sûr. Parce que certaines gens vont dire, oui, ah, Jésus a porté nos péchés à la croix, mais nous ne sommes pas certains s'il a porté nos maladies. Alors, est-ce qu'une telle interprétation fait honneur à Dieu le Père? Nous avons déjà vu à quel point la guérison fait partie du caractère de Dieu. Alors oui, l'interprétation que Matthieu donne sur le livre d'Ésaïe, sur les versets de chapitre 53, honore le Fils et honore le Père. Alors nous devons tous mettre de côté nos fausses théologies et revenir à ce que la Bible dit. Alors pour moi, je suis un homme qui n'a pas une grande éducation. J'ai à peine terminé, je suis irlandais et j'ai à peine terminé mon école secondaire là-bas. Mais je vous assure que si aujourd'hui je devais m'adresser à des théologiens, à des docteurs et à des gens dans l'Église qui sont très intelligents, je vous assure que je pourrais me tenir devant eux ici avec tout le ciel qui m'appuie derrière moi et les regarder droit dans les yeux en leur disant ce que dit la Bible, c'est-à-dire « Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. » Et je vous défends bien d'enseigner autre chose que ce qui est écrit là. N'est-ce pas? Nous devons être vrais maintenant. Alors c'est bien écrit dans nos Bibles, c'est clair. Alors je n'arrive même pas à comprendre comment des gens qui se disent intelligents, qui se disent des chrétiens et qui sont fiers de leur grand diplôme en théologie, alors comment en sont-ils venus à pouvoir contrarier un passage qui est aussi clair? J'aimerais vous raconter une petite histoire ici. Je vais essayer d'être assez court. Il y a 4 à 5 ans, je prêchais ce message de guérison et moi-même j'étais très malade. Alors je crachais du sang et j'étais toujours très très faible et je voulais mourir. Alors j'étais tellement malade que je voulais mourir. C'était très dur pour moi. Et le Saint-Esprit m'a dit, ne va pas voir le médecin, ne va pas à l'hôpital. Alors j'aimerais ici ouvrir une parenthèse. Si vous choisissez pour vous-même de vraiment non seulement croire, mais vous impliquer complètement dans l'enseignement, et si le Seigneur lui-même vous convainc, comme il l'a fait pour moi en cette occasion-là, de ne pas aller voir ni le médecin, ni me rendre à l'hôpital, alors là, cela s'applique à vous. Et cela s'applique dans cette occasion spécifique où le Seigneur vous parle. Et je connais des gens, ou même des groupes de gens et des sectes, qui vont imposer à d'autres toutes sortes de contraintes et de règlements, et dont l'idée de ne pas prendre de médication, de ne pas aller voir le médecin ni d'aller à l'hôpital. Et même certains parents vont imposer cette croyance à leurs enfants. Alors, je ne crois pas que c'est ce que Dieu demande. Si moi, le Seigneur, me convainc pour ma propre personne, et si je me trompe, alors je vais mourir, vous allez m'enterrer, c'est fini là. Mais vous ne pouvez pas imposer rien à vos enfants ou à qui que ce soit d'autre. Alors cela doit être dit, c'est très important. Alors si notre enfant est malade, nous allons prier pour notre enfant, et si jamais, pour une quelconque raison, la guérison ne vient pas immédiatement, nous allons amener l'enfant à l'hôpital afin qu'il soit soigné. Alors, je voulais ouvrir cette parenthèse et vraiment amener cette emphase, à savoir, c'est vous qui faites le choix, et Dieu peut vous parler, oui, pour des circonstances précises, mais c'est Dieu qui vous le dit à vous, et vous ne pouvez pas l'imposer à qui que ce soit. Alors, j'ai même déjà lu qu'un enfant de 11 ans est décédé parce que ses parents n'ont pas voulu l'amener à l'hôpital pour qu'il soit soigné à cause de la prière de guérison. Donc, c'est évident que nous ne devons pas tomber dans cette mentalité. Alors, la raison que le Saint-Esprit m'a dit pourquoi de ne pas aller à l'hôpital, alors, lorsque j'ai dit cela en premier à mon épouse, elle a cru que je commençais à déraper un peu. Et les membres de ma famille là-bas ont cru que j'avais commencé à boire à nouveau. Parce qu'auparavant, j'étais un homme qui buvait beaucoup et je prenais beaucoup de drogue. Alors, ils ont cru que je commençais à déraper encore. Alors, je crachais du sang et il ne va pas aller à l'hôpital. Alors, c'est comme si j'ai questionné le Seigneur là à ce propos-là. Et je crois qu'il m'a dit, la raison que je te dis cela, c'est parce que si tu vas à l'hôpital, alors eux, ils vont vraiment te faire peur. Alors, j'ai dit, ah bon, je comprends, Seigneur. Alors, j'aimerais vous dire que, oui, déjà la peur était quelque peu présente en moi. J'en avais rien d'un super-héros. Et puis, en fait, vraiment, j'avais beaucoup de crainte déjà à l'intérieur de moi. Et je peux vous dire que il y a des journées à cette époque-là où vraiment je ne pourrais pas me vanter d'avoir une foi très très forte là. Il y a eu des jours où j'étais très très découragé. Et au point que il y a des journées où je ne faisais que pleurer. Et j'étais faible et je criais à Dieu et je disais Seigneur, Seigneur, si vraiment c'est la vérité, alors pourquoi suis-je encore malade? Et même à ça, j'avais de la misère à entendre la voix de Dieu. Et parfois, je n'étais même pas convaincu que si c'était bel et bien la voix de Dieu qui me parlait. Je devais vérifier vraiment qui me parlait, est-ce que c'était vraiment Dieu. Mais pourtant, j'entendais cette voix clairement qui me disait, tout va bien aller. Alors, je n'ai jamais dit cela à Curry. Et une fois, il était ici. Et en fait, je ne lui ai pas dit, mais vraiment, je me sentais très mal, très, très, très faible. Et encore là, j'étais dans la ligne pour la guérison. Alors, je me suis levé, ma chaise, et je n'oublierai jamais ce que Dieu m'a dit à ce moment-là. Je trouve que parfois, Dieu a tellement le sens de l'humour. Et je l'ai entendu très clairement me dire. Et en fait, il m'a dit quelque chose que je ne voulais pas vraiment entendre. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais? Alors je marche. Qu'est-ce que tu fais? J'ai entendu deux fois. Alors, je savais pas trop quoi répondre. Je voulais pas dire à Dieu, ben, je me lève pour aller faire prier pour moi parce que je suis malade. Et de confesser que j'étais malade. Alors, mais nous ne sommes pas des membres de l'Église de la Scientologie, n'est-ce pas? Alors ça, ce sont eux qui disent ça. Nous ne nions pas la maladie. Alors ça, c'est de la folie de cette église-là, de la scientologie qui nie la maladie. Ce n'est pas ce que nous faisons. Mais nous nions le droit à la maladie d'exister. Voilà la différence. Et Jésus me parlait, j'entendais clairement sa voix maintenant. Et le Seigneur m'a dit clairement, tu es guéri, assis-toi. Alors, j'aimerais vous dire que je ne me sentais pas guéri du tout. Mais de la perspective divine, je suis guéri. Mais je peux vous dire que tout cela a fait naître en moi vraiment de la compassion pour les malades. Parce que lorsque maintenant je suis entouré de malades, je peux vous dire que je sais, je comprends qu'est-ce que certains d'entre eux traversent. Et le fait, je sais que d'être très malade dans votre corps, c'est quelque chose qui est horrible. Non seulement votre corps, mais toute votre pensée en est affectée. Alors, je veux juste être franc et honnête avec vous. Il y a eu des journées pendant cette période de maladie où j'aurais aimé mieux mourir. Je voulais mourir. Même c'était ma prière. Je demandais à Dieu de m'enlever sur cette planète. Parce qu'il faut voir que le combat parfois est tellement difficile que nous sommes épuisés et nous sommes fatigués du combat. Nous aimerions mieux ne plus avoir à combattre et simplement mourir et aller dans la présence de Dieu. Mais j'entendais toujours cette voix de Dieu, et particulièrement lorsque je vomissais du sang. Et là, je suis là à regarder le sang dans la toilette. Et vous savez, ça peut faire peur parfois. Et alors, ce que j'entendais le Saint-Esprit me dire, alors, je venais à peine de finir de vomir du sang, et j'entendais l'Esprit me dire d'une voix douce, alors, il est temps maintenant de le dire. Alors, confesse ta guérison. Confesse la guérison. Affirme que tu es guéri. Alors, nous voyons ici dans la première épître de Pierre, au chapitre 2 et verset 24. Alors, nous avons heureusement la parole de Dieu pour nous aider. Et lorsque nous sommes si malades au point que nous aimerions mourir, alors l'Esprit Saint veut nous encourager à citer la parole de Dieu. Et voici ce que Dieu dit dans sa parole, à travers la bouche de l'apôtre Pierre. Et ce que nous allons lire là dans cette épître-là, ce que Pierre a dit, cela a été écrit après la résurrection du Seigneur Jésus. Alors il écrit que Jésus, évidemment, a accompli ce que disaient les Écritures et l'Ancien Testament, et jusque même au livre d'Ésaïe. Jésus accomplit toute la parole. Parce que nous l'avons lu tantôt, Ésaïe l'avait dit au préalable, dans le chapitre 53 et le verset 4, nous l'avons lu, que Jésus allait porter nos souffrances et qu'il allait prendre nos douleurs. Et alors que Jésus était ici en Matthieu chapitre 8 et verset 17, alors nous l'avons lu aussi, nous avons vu que Jésus accomplissait cette prophétie aussi pendant qu'il était là. Alors, nous l'avons dans le passé, 800 ans avant que Jésus soit là. Nous avons encore cette parole qui est venue dans Matthieu 8, lorsque Jésus était sur terre et qu'il allait porter sur lui nos maladies et nos infirmités. Et là, maintenant, encore, dans l'épître de Pierre, Jésus avait déjà accompli, il était déjà mort sur la croix et il était même monté au ciel. Alors, voici ce que l'apôtre Pierre a écrit, lui qui injurié ne rendait point l'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais qui s'en remettait à celui qui juge justement. Et le verset 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Et il ajoute ceci. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Alors, l'apôtre Pierre ne nous a pas dit, ah oui, à cause de son sacrifice, peut-être qu'un jour vous serez guéri ou plus tard vous serez guéri. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Le temps est au passé. Vous avez été guéri. C'est très important. Alors, lorsque vous saisissez complètement cette vérité que je vous expose maintenant, alors il est possible que vous ayez entendu déjà ces versets, mais est-ce que vraiment votre intelligence a été renouvelée? Est-ce que vous avez laissé pénétrer cette vérité en vous? Curry nous a expliqué que nous devons laisser notre intelligence être renouvelée conforme à la pensée de Jésus. Et lorsque votre pensée est renouvelée, alors votre esprit va rendre témoignage à la vérité qui est dans la parole, que Jésus a bel et bien porté vos maladies et vos infirmités. Et lorsque Pierre dit, au temps passé, par ces meurtrissures, vous avez été guéri. Alors on parle d'un geste qui a déjà été accompli dans le passé. Lorsque vous saisissez cette vérité, il n'y a plus de retour en arrière. Oui, Jésus, nous a parlé, nous avons vu déjà que Jésus nous a dit qu'il fallait calculer le prix avant de le suivre. Il y a un prix à payer pour suivre le Seigneur. Alors, est-ce que nous avons vraiment la volonté? Est-ce que nous avons les nerfs? Est-ce que nous avons vraiment la détermination de suivre Jésus? Alors, lorsque les choses commencent à être difficiles, est-ce que vous êtes capable de demeurer là quand même? Parce que vraiment, ce que le Nouveau Testament a à nous dire sur la foi, c'est que vous avez toute la foi dont vous avez besoin. Si vous êtes sauvé, vous avez déjà gravi la montagne de la foi. Vous avez besoin de la foi pour être sauvé. Mais une fois que vous êtes sauvé et que vous devenez une nouvelle création, alors là, dans cet esprit que vous avez reçu, il y a toute la foi que vous avez besoin. Alors on vous a déjà donné la mesure de foi nécessaire. Alors ce qui est nécessaire maintenant, c'est le renouvellement de l'intelligence. Jésus a porté mes maladies. Et lorsque cela pénètre à l'intérieur de vous, cette vérité, et que vous devenez malade, vous pouvez vous battre, et vous pouvez vous tenir droit, et vous allez remporter la bataille. Alors un jour, j'étais couché sur le canapé, et j'étais très très malade, et je voulais m'endormir et ne plus jamais me réveiller. Et j'étais en train de réfléchir sur cette parole de l'Écriture, de ce que nous avons lu tantôt. Et vraiment, cela m'amenait beaucoup à méditer sur le plan de Dieu. Et lorsque vraiment on peut voir le plan de Dieu sur sa vaste étendue, alors comme l'apôtre Paul, nous tombons à genoux. Et vous dites, waouh Seigneur, ton plan est tellement grand, tellement glorieux. Alors je suis là couché et je réfléchis sur les choses de Dieu. Et je me suis dit, si je meurs maintenant, je vais voir Jésus. Alors je suis sauvé, je sais que je vais le voir. Alors je serai là, j'arrive au ciel, je vois le Seigneur, je regarde dans ses yeux et je vais lui dire, Jésus, tu as porté mes maladies. Alors après avoir réfléchi, bien réfléchi à tout ça, j'ai changé mon attitude. Alors les gens près de moi me demandaient, bon, comment ça va maintenant? Et je leur disais, oh, ça va très bien, ça va très bien. En dedans, je me sentais encore très malade, mais je savais quelque chose. Je savais que, après cette réflexion et le choix que j'avais fait de croire, choisir de croire que Jésus avait porté mes maladies à la croix, alors je crois que je ressentais la paix, la joie du Saint-Esprit. Je crois que le Seigneur était heureux que je prenne cette position-là. En quoi Dieu trouve-t-il plaisir? La foi. Alors il est dit dans l'Épître aux Hébreux, je crois, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et spécifiquement lorsque les choses ne vont pas bien. Oui, il arrive parfois que la guérison se produit d'une manière instantanée. Mais je dirais que très souvent, lorsque nous sommes malades, il y a un combat à livrer. Nous devons livrer ce combat. Et même si j'étais mort, même si j'aurais perdu l'ultime combat, cela ne changera certainement pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors, il faut saisir que nous sommes une armée, nous sommes l'ultime, la seule armée que Dieu possède ici-bas. Et c'est étrange parce que l'attitude que nous avons parfois, c'est que si l'un des soldats, si nous perdons un des soldats dans notre armée, alors tout le reste de l'armée vont se retirer, ils vont retourner derrière. Alors, c'est étrange l'attitude que nous avons. Donc, si l'un d'entre nous n'arrive pas à vaincre l'adversaire qui est la maladie, alors toute l'armée va battre en retraite. Alors, vous savez, est-ce que ça fait du sens ou quoi? Et le Seigneur m'a montré que dans toutes les batailles, si nous, lorsque, pour les vrais guerriers, lorsque nous perdons une bataille, alors au lieu de nous décourager, alors cela devrait au contraire nous inspirer à se battre mieux et à être encore plus fort. Et ce serait l'attitude normale, vraiment du vrai combattant. Mais malheureusement, souvent, la manière d'agir de nous, les chrétiens, alors si jamais l'un d'entre nous qui a la foi va mourir, alors au lieu d'être motivé, au lieu d'être inspiré vraiment à continuer à se battre encore plus fort, nous battons à la retraite, nous retournons derrière. Et je l'ai fait moi aussi. Et je me suis repenti d'ailleurs. Parce que j'ai perdu des amis et même des jeunes hommes de mes amis qui sont morts. Alors j'aimerais vous raconter une autre petite histoire maintenant. Alors ici dans cette ville de Portland, j'ai rencontré un jeune homme qui devait vraiment livrer un grand combat. Et c'est difficile même pour moi d'en parler parce que lorsque nous côtoyons une personne qui se bat de cette manière-là et que nous voulons vraiment être près de lui pour l'aider, et en fait il a perdu ce combat, c'est un père qui avait deux jeunes enfants. Et ils m'ont demandé de présider la funéraille. Alors, je n'étais pas vraiment très enthousiaste à présider cette funéraille-là. Ce que je veux apprendre, c'est de ressusciter les morts et non pas de les enterrer. Mais nous apprenons à mesure que nous avançons, n'est-ce pas? Alors, je suis allé à la funéraille et le Seigneur m'a parlé clairement la veille. Et il m'a dit, lorsque tu vas parler là à cette funéraille, je veux vraiment que tu encourages son épouse et ses enfants et son frère, sa sœur et tous ces gens qui se sont tenus près de lui. Je veux que tu les fasses lever debout et que tu leur dises de ma part quel travail merveilleux ils ont accompli dans la foi et qu'il n'y a vraiment aucune condamnation. Et que Dieu est très fier de vous à cause de la démarche et du choix que vous avez fait de croire en la guérison. Et d'une manière humaine, je leur ai même partagé que moi aussi, j'ai pris le blâme. Et en fait, c'était moi qui étais en fait la principale personne qui exerçait le ministère envers lui. C'était à moi premièrement que revenait la tâche de sa guérison. Et je leur ai dit moi-même, je suis prêt à prendre le blâme devant Dieu. Et pourtant, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, je leur ai bien spécifié, ce n'est pas une question de vivre la condamnation. Mais je sais, en tant que ministre de l'Évangile, que j'aurais pu faire mieux, n'est-ce pas? Alors, je ne vous dirai pas quelle église c'était, mais je suis sorti et là, il y a deux ou trois pasteurs qui sont venus me rencontrer. Et en fait, ils n'étaient pas vraiment contents de ce que j'avais dit. Ils ont dit, pourquoi est-ce que tu te blâmes comme ça? Alors dites-moi, selon la Bible, pourquoi vous me dites ça? Et ils n'ont pas pu vraiment me dire rien venant de la parole de Dieu pour justifier leur attitude. Alors ces gars-là sont supposés d'enseigner la vérité. Alors qu'est-ce que Jésus a fait lorsque le jeune garçon n'a pas été guéri? Et que, alors que les disciples étaient en train de vraiment avoir un argument au sujet de qui était le plus grand parmi eux, et peut-être même avoir des arguments au sujet de pourquoi que le jeune n'a pas été guéri. Alors Jésus a guéri l'enfant, et qu'est-ce qu'il a dit? Alors il n'était pas vraiment content avec ses disciples cette journée-là. Alors il a dit, vous, génération perverse et corrompue. Alors, vous savez, dans le langage grec, le mot pervers, ce n'est pas une chose très belle à dire. Alors, Jésus était même choqué envers eux. Alors, vous comprenez bien que Jésus s'attend à ce que nous accomplissions ce qu'il nous a demandé. Alors, c'est pour ça qu'il avait cette attitude-là envers les disciples, qui n'avaient pas réussi à guérir le jeune homme. Alors, cela ne signifie pas que nous devons vivre des condamnations ou de la culpabilité. Alors, lorsque vous commencez à bien saisir tout le contenu de la parole de Dieu et que vous agissez selon ce que la Bible dit, alors ce ne sera pas seulement des témoignages, à ce moment-là, des témoignages d'autres personnes que vous allez avoir à raconter, mais vous aurez vos propres témoignages de guérison à raconter. Parce qu'en réalité, ce que nous devons faire, c'est vraiment mettre la main à la pâte et vraiment accomplir la tâche que le Seigneur nous a demandée. Et je peux vous dire qu'il n'y a rien dans la vie que cette vie abondante que Dieu nous donne, lorsque vous savez, vous réalisez que la puissance de Dieu se manifeste à travers vous, et que vous voyez des gens atteints de cancer, des cancers très graves, je les appelle des démons crapuleux, parce que je n'aime pas ces maladies-là. Alors ils sont venus pour égorger, tuer et détruire. Mais lorsque vous voyez de vos yeux un cancer disparaître complètement, oh, c'est une chose merveilleuse à voir, mes amis. Il n'y a rien comme ça sur Terre. Alors, lorsque vous voyez les gens malades, je me souviens d'une autre femme qui avait eu un accident et son crâne était ouvert. Et ils ont dû remettre son cerveau en place. Et ils ont dit, ça y est, elle va mourir. Elle était dans le coma pour 3 jours. Alors, nous sommes allés prier pour elle. Alors, parce que sa jeune fille nous a demandé d'aller prier. Et les gens nous ont dit, écoute, vous perdez complètement votre temps. Cette dame est totalement finie. Elle va mourir. Alors, même ses signes vitaux étaient inexistants. Et en fait, même si elle revenait du coma, elle sera un parfait légume. Alors, nous entendons ça. Et nous savons qui est Jésus. Alors, nous avons dit, OK, nous avons entendu. Nous allons prier quand même. Alors, on a prié. Alors, la première journée, nous avons vu déjà des changements au niveau de son œil qui commençait à bouger. La deuxième journée, même chose. C'était merveilleux. Et nous avons continué, nous avons vu un changement et tout à coup, elle était complètement guérie. Alors, il n'y a rien comme ça sur Terre. Il n'y a pas de joie plus grande sur Terre que cela. Alors, ce que nous désirons, c'est que la parole de Dieu vraiment demeure dans notre cœur et dans notre esprit. Parce que l'essence de tout ce que nous avons enseigné demeure sur le fondement que Jésus-Christ a porté nos maladies et nos infirmités. Et lorsque vous établissez ce fondement, cette fondation. Vous devenez des gens affermis dans la vérité et très courageux. Et vous êtes cette armée de Dieu. Et si par malheur il y avait un des soldats qui mourait dans la bataille, vous ne serez pas découragés, mais vous allez redoubler d'efforts et vous tenir sur le standard de la parole de Dieu. Et vous dire les uns aux autres, nous ferons mieux la prochaine fois. Nous avons perdu ce soldat, mais nous allons gagner la guerre. Et la prochaine personne pour qui nous allons prier, cette personne-là, nous allons la guérir. N'est-ce pas? Alors allons à l'Épître de Jacques, au chapitre 5, verset 14. Nous pourrions passer beaucoup plus de temps sur ce sujet, parce que c'est tellement intéressant d'approfondir encore, et aussi que ça devienne réel dans notre vie. Non pas seulement de la théorie, non pas seulement de la doctrine, mais que ça devienne réel et que ça puisse nous amener à l'action. Alors j'aimerais simplement mentionner quelques points ici. Alors si nous savons que quelqu'un est malade, oui, alors je vais simplement vous lire ce que Jacques a dit, ce sera encore plus facile. Verset 15, alors, verset 14, « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade. » Quelle est la prière de foi? Alors, allons à la concordance, allons au commentaire biblique, nous allons découvrir ce qu'est la prière de foi. Alors, si il nous est demandé de prier la prière de la foi, nous devons savoir qu'est-ce que c'est. J'ai entendu beaucoup de gens parler de la prière de la foi, et on n'entend pas quand même souvent, très très souvent, de prédications sur ce sujet-là. Et si quelqu'un devait nous enseigner sur ce qu'est la prière de foi, qui devrait être cette personne, vous croyez? Jésus, voyons. Alors, c'est lui l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de la foi, n'est-ce pas? Alors, le meilleur commentaire biblique que nous pouvons avoir, c'est l'Écriture elle-même, vous voyez? Alors, plutôt que de fouiller partout dans différents commentaires, pourquoi ne pas aller à la source? Alors, c'est simple à comprendre, il y a tellement de doctrines qui ont causé tellement de confusion chez les gens. Si nous devenions habitués à chercher dans la Bible ce que nous devons savoir, alors ce serait beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Alors nous avons appris à dépendre des gens qui ont des doctorats et toutes sortes de diplômes. Et pourtant, dans le domaine spirituel, cela ne compte aucunement, n'est-ce pas? Alors je connais quelqu'un qui est allé dans une des meilleures écoles bibliques de la planète. C'est à Dallas. Et il a même, en fait, il est devenu docteur. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, ils m'ont complètement détruit. C'est ce qu'il m'a dit lui-même. Et il prêche maintenant le message de la guérison et de la foi. Alors vous voyez, ça n'a pas été très bon pour lui d'aller à cette école. Alors, allons voir le commentaire dont je vous parlais, Marc 11 et 23. Nous parlons toujours de la prière de la foi. Et allons voir ce que Jésus dit sur le sujet de la prière de la foi. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et c'est merveilleux. Jésus nous donne toutes les réponses. Et même ici, après tous ces enseignements que nous avons eus, si j'essayais de combattre la maladie basée sur Curry Blake, sur la personne de Curry Blake, alors je ne verrais pas beaucoup de résultats. Je vous garantis. Mais vous ne pouvez pas vivre sur la révélation d'un autre ou sur l'expérience d'un autre. Vous devez vous-même puiser dans la parole de Dieu la richesse des Écritures et l'appliquer dans votre vie afin que votre intelligence soit renouvelée pour vous-même. Alors, ce que nous faisons ici, c'est que nous plantons la semence. Le Saint-Esprit est celui qui vous enseigne, mais vous devez arroser, creuser dans la parole. Et lorsque vous lisez des passages comme nous avons vu tantôt que Jésus a porté vos maladies et vos infirmités, vous-même devez faire l'étude, et comme, un peu comme nous avons fait, d'aller dans le livre d'Ésaïe et ailleurs. Et je n'ai pas beaucoup de temps maintenant, mais on aurait même pu lire le verset 10 du 53e chapitre d'Ésaïe. Et cela va vous parler fortement au sujet de ce que Dieu a fait envers son Fils à cause de nous-mêmes. Ça va vous faire pleurer. Alors, nous avons lu le passage de Marc. Voici ce que Jésus nous disait en somme. Si vraiment vous voulez faire bouger une montagne, et vous croyez dans votre cœur, et vous parlez avec votre bouche, vous allez recevoir exactement ce que vous dites. C'est la prière de la foi. Peut-être que cette montagne-là s'appelle cancer, et vous savez dans votre cœur que vous êtes connecté avec le ciel, que vous êtes une nouvelle créature, que votre parole, que vos mots, les mots que vous dites ont de l'autorité. Et vous croyez dans votre cœur que lorsque vous allez parler à ce cancer et que vous allez l'arracher au nom de Jésus, et vous parlez à ce cancer au nom de Jésus, et le cancer va partir. Alors, est-ce que ça, c'est la prière de la foi? Oui. Alors, c'est ce que Jésus nous a dit. C'est aussi simple que cela. Alors, c'est ce que la Bible nous enseigne. Alors, le point que j'ai voulu vous enseigner aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas dépendre des autres ou des intellectuels ou des raisonnements humains ou de la sagesse humaine. Parce que les choses de Dieu sont des choses spirituelles. Et Dieu va toujours vous supporter lorsque vous êtes en accord avec sa parole. Lorsque vous parlez selon la parole de Dieu, vous verrez des résultats. Alors, je suis un homme très ordinaire, je suis un homme d'affaires, je ne suis pas un théologien ni un pasteur. La plupart de mon temps, je l'occupe à mon travail, à faire des affaires. Mais ça aussi, je le fais pour Dieu, je le fais pour Jésus, parce que tout ce que je fais appartient à Jésus. Alors, tout ce que je fais, je dois le faire pour Dieu. Et Dieu continue de me donner des révélations. Et si vraiment nous donnons tous les aspects de notre vie à Dieu, en tout ce que nous faisons, nous pourrons voir le Seigneur agir. Alors, lorsqu'on lit Matthieu 8, 17, et que nous sommes persuadés que Jésus a bel et bien porté nos maladies, vous connaissez là, devant vous, la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi nous pouvons avec assurance prier pour les malades. Et lorsque nous sommes malades, nous pouvons avec assurance prier pour notre guérison. Parce que cela fait partie de notre héritage. Et j'ajouterai ceci, qu'il n'est pas toujours nécessaire d'aller faire prier pour nous lorsque nous sommes malades. Parce que lorsque cette vérité habite en nous, nous pouvons aller vers la parole de Dieu. Et vous pouvez faire un choix là. Et vous allez gagner ce combat. Et lorsque vous priez pour les malades, vous savez ce que vous êtes en train de faire. On dit souvent, en fait, la prière de notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit sur la terre, comme elle est faite au ciel. Au nom de Jésus. Parce que lorsque vous guérissez les cancers, et lorsque vous chassez les démons, et que vous libérez les autres, ça c'est un combat spirituel. Et ce que vous faites, c'est que vous amenez la volonté de Dieu, le royaume de Dieu sur la terre. Alors exactement ce que Jésus nous a dit de faire. Amen. Alors voici, nous allons terminer sur ces paroles. Que Dieu vous bénisse.